pas forcément l'épreuve, la royauté et la persévérance. Et lui, il dit, au cœur de notre relation de frères, donc, au cœur de ce qui fait de nous des frères, il y a ça. Et il y a ça d'abord, il y a ça essentiellement. Alors, ça vaut peut-être le coup de s'interroger ensemble, pourquoi ? Pourquoi, dans l'esprit de quelqu'un d'aussi proche de Jésus que Jean ? Parce que là, on est au cœur de l'intimité. Vous savez, enfin, je ne reviens pas sur les relations tout à fait intimes qu'il y ait Jean et Jésus, ou Jésus et Jean. Et donc, si quelqu'un a approché de très près, pas seulement intellectuellement, mais affectivement, sentimentalement, le Seigneur, c'est bien Jean. Et donc lui, Jean qui a, j'allais dire, plus que Paul. Alors, Paul est un intellectuel, ça ne veut pas dire que les intellectuels n'ont pas de cœur, mais Jean fonctionne plus avec le cœur qu'avec la tête, on va dire. Et si Jean, qui fonctionne avec le cœur, dit ce qui fait de nous des frères, fondamentalement, c'est l'épreuve, la royauté et la persévérance, ça vaut le coup qu'on s'arrête à ces notions-là. Et donc je vous propose une réflexion sur ces notions-là, avec d'abord l'idée qu'on prend ça en pleine poire et on se dit c'est un peu un inventaire à la Prévert, c'est-à-dire... Si c'était pas la Bible, on dirait il a pris les trois premiers mots qui lui sont passés par la tête, mais comme ça, à première vue, c'est des notions qui n'ont rien à voir entre elles, pour tout un tas de raisons. Par exemple, l'épreuve, c'est quelque chose de très humain, de très ancré dans notre quotidien. L'épreuve, on sait tous ce que c'est, enfin, on est tous... On sait tous, même si on n'a pas encore vécu des épreuves très douloureuses, on sait tous que dans une vie humaine, y a des moments qui peuvent être qualifiés comme ça. Donc ça, c'est très humain, c'est très ancré dans notre humanité. Par contre, la royauté, je ne sais pas vous, mais on le vit au quotidien comme quelque chose de très virtuel. Et disons-le, de très futur. Bon. Donc vous voyez, déjà, on a l'impression que épreuve et royauté, ce n'est pas sur le même plan. Et ainsi de suite. Donc on a... J'essaye d'aller très vite parce que quand je me suis fait peur tout seul en arrivant au bout de ma préparation en disant là il y en a pour 5 plombes, donc on va essayer de faire court. Donc c'est des notions qui a priori n'ont pas grand chose à voir entre elles. Ce qu'une étude un peu plus développée démontre, c'est l'inverse. Alors on va pas aller jusqu'au bout de l'étude, mais on va quand même effleurer un certain nombre de choses. L'inverse, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ce sont au contraire des notions qui, bibliquement, sont intimement liées entre elles. Il y a beaucoup de liens dans les textes bibliques entre l'épreuve, la royauté et la persévérance. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Et on va aborder ça. Elles ont en commun aussi, ces trois notions, d'avoir Jésus comme modèle absolu. Ça, c'est une réalité commune aux trois notions. C'est-à-dire que quand on regarde bibliquement le concept, à chaque fois, que ce soit le concept d'épreuve, le concept de persévérance ou le concept de royauté, on ne voit pas un concept, on voit une personne dans l'absolu. Et cette personne-là, c'est le Seigneur. Parce que c'est le modèle absolu d'épreuve. Personne n'a... connu l'épreuve qu'il a connue. Parce que, je sais quelle objection on peut faire, c'est que dans l'Empire romain, des types qu'on clouait sur une croix pour les exécuter, il y en avait tous les jours. Je suis bien d'accord avec ça. Mais des types qui, en même temps qu'ils étaient exécutés par ce moyen-là, portaient sur eux la faute entière de toute l'humanité, depuis le premier homme jusqu'au dernier, il n'y en a eu qu'un. Et le plus dur, c'est pas un clou planté dans une main ou dans un pied. Le plus dur, c'est ça. C'est ce qui fait hurler Jésus. C'est à cause de la faute de l'humanité d'être séparé de son Père. Et quand on est le Christ, la séparation d'avec Dieu, c'est quelque chose d'effroyable. et d'effroyablement douloureux. Donc quand je dis « pas d'épreuve plus grande », c'est à ça que je fais allusion. Personne de plus grand dans la royauté non plus. Et personne de plus grand dans la persévérance, étant précisé que la persévérance, c'est tout simple comme concept. Ça veut dire aller jusqu'au bout du destin qui est le nôtre. Alors, évidemment, on n'a pas le même destin que lui, mais c'était d'autant plus dur pour lui d'aller au bout de son destin que son destin était très particulier et justement très particulièrement douloureux. Donc, si on a un modèle à regarder, une figure qui s'impose en matière d'épreuve ou en matière de royauté ou en matière de persévérance, c'est lui. Et donc, c'est presque un pléonasme que Jean écrit en ajoutant « en Jésus ». Parce que, évidemment, en Jésus. Et évidemment qu'il est au cœur de ça et qu'il est au cœur de ce qui, selon la parole de Jean, nous rend frères. Et au cœur de ce qui nous est commun, c'est-à-dire de ce qu'on partage, ce qui est traduit ici par compagnon. Et puis, troisième élément, donc, ce sont des notions intimement liées entre elles, ce sont des notions qui ont en commun d'avoir Jésus pour figure emblématique. Et puis, paradoxalement, si on y regarde de plus près, si on analyse les textes bibliques, ce sont des notions qui prennent une dimension collective. Qui prennent une dimension collective, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on partage. Alors, a priori, ça n'en a pas l'air. Pourquoi, a priori, ça n'en a pas l'air ? Parce que vous entendrez des gens, avec une bonne foi absolue, vous dire, par exemple, « on n'est jamais aussi seul que dans l'épreuve ». Moi, j'ai entendu des gens dire « dans l'épreuve, vous pouvez avoir une foule autour de vous, vous êtes de toute façon seul ». Et dans la persévérance, alors, on le verra tout à l'heure, le seul moment où Jésus, alors je mets des guillemets à l'expression, pour pas qu'il y ait de méprise, mais le seul moment où Jésus a besoin, entre guillemets, de ses disciples, c'est-à-dire va leur reprocher de ne pas avoir été là avec lui, c'est au moment de l'épreuve, puisque c'est à ce moment-là qu'ils ne sont pas là, alors que lui leur a demandé d'être avec lui, rester avec moi, veiller avec moi, mais ils s'endorment, vous le savez. Donc c'est dans l'épreuve, et c'est dans l'épreuve qui marque l'aboutissement de sa persévérance. Et c'est là qu'il aurait bien voulu ne pas se sentir seul. Dans son humanité, bien sûr, parce que les disciples n'auraient rien ajouté, ni rien enlevé, malheureusement, à ce qu'il avait à faire ou à accomplir. Mais n'empêche que. Alors, donc il faut se débarrasser, et ça va être aussi la démarche qu'on va entreprendre, il faut se débarrasser de ces clichés, parce que ce sont véritablement des clichés. L'épreuve, c'est quelque chose d'individuel. La royauté, même pour des chrétiens, c'est quelque chose de virtuel. Quand je dis virtuel, c'est, un jour, un royaume, mais de toute façon, plus tard et au-delà, et ailleurs. Donc, dans un ailleurs dont on ne sait pas trop où il est, et dans un futur dont on ne sait pas quand il se situe, on conçoit la notion de royaume. Mais ancrer ça dans notre quotidien, c'est... Et pourtant, on va voir que la Bible prend le contre-pied de ça. Et puis, la persévérance... alors, la persévérance, quand on le regarde lui, on sait bien que oui, c'est le modèle de persévérance. La persévérance, quand on se regarde nous, c'est la théorie de la relativité qui prend le dessus. Parce que on a une persévérance toute relative. Et une persévérance, en ce qui me concerne, mais je pense que, bienvenue au club... On est à géométrie variable dans ce domaine. Alors, on peut, encore une fois, sans trop s'y attarder, en tout cas je vais essayer, procéder à un examen détaillé avec les textes bibliques des trois notions. Alors, d'abord l'épreuve. L'épreuve étant à prendre, alors, pas épreuve au sens épreuve sportive, parce que là il y a un glissement sémantique. C'est-à-dire que l'épreuve, c'est presque... Dans les jeux télé, c'est « Ah, vous avez passé la deuxième épreuve, vous allez pouvoir passer la troisième ». On ne parle pas de ça. Là, on parle de l'épreuve au sens de difficultés dans la vie et de la vie. C'est-à-dire les moments difficiles qu'on peut vivre les uns et les autres. Donc là, alors, encore une fois, pour se débarrasser des clichés, si vous interrogez l'homme de la rue, il vous dira, bah oui, l'épreuve, ça fait partie de la vie, sous-entendu, ça fait partie de la condition humaine, c'est-à-dire qu'on a tous, nous tous qui traversons l'existence, eh ben, on a des mauvais moments à passer, c'est comme ça. Et c'est comme ça pour les chrétiens autant que pour les autres, donc ça nous différencie pas fondamentalement du commun des mortels. On pourrait croire comme ça que les chrétiens ont moins d'ennuis parce que Dieu est avec eux, mais en fait non, du tout. À l'expérience, il s'avère qu'on est largement dans la moyenne au niveau des empoisonnements. Et donc, bon, là, on pourrait dire que c'est un terrain où il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les autres, et où la Bible n'a a priori rien à dire, parce que quand on est face à l'épreuve, alors évidemment, ça peut changer la donne d'être chrétien ou pas, mais ça ne change pas l'épreuve. Bon. La Bible, vous le savez sans doute, mais on va quand même regarder les textes, a une toute autre approche de l'épreuve, c'est-à-dire que l'épreuve, au sens de la difficulté de la vie, encore une fois, pour les chrétiens, ça n'est pas du tout ce que c'est pour les autres, et très clairement, dans les textes, l'épreuve a pour les chrétiens une fonction pédagogique. Alors, quelques textes. Vous avez vos Bibles, non? Alors, bon, tout seul. Non, mais c'est pas grave.
Les bons élèves sont de ce côté-là.
Voilà. Donc, oui, voilà, vous connaissez par cœur. Donc, première lettre de Pierre. Première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimé, alors cette expression-là est un peu... Bien-aimé, on ne mesure pas suffisamment qu'en grec, c'est la forme passive du verbe aimer, c'est-à-dire vous qui êtes aimé. Et à chaque fois que la Bible emploie l'expression, c'est vous qui êtes aimé de Dieu. Donc c'est pas une formule comme ça, c'est pas les potes. C'est « rappelez-vous que vous êtes aimé de Dieu ». La phrase commence comme ça. Donc, « vous qui êtes aimé de Dieu », je préfère traduire comme ça, parce que c'est encore une fois la forme passive du verbe « aimer ». « Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. »« Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si c'était quelque chose d'anormal. » Mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Ne trouvez pas ça anormal. Autre texte, toujours dans la première de Pierre, chapitre 3, verset 7. Non, c'est pas ça. Ah oui, non, si, 1. Première de Pierre, chapitre 1er, pardon, non, c'est chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin. Aussi, tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut que, pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, obtienne louange, gloire et honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc là, on a un indice supplémentaire, c'est que... Et si on y réfléchit, on voit à quel point c'est vrai. L'épreuve sert à épurer notre foi, comme le feu sert à épurer l'or. Parce que, mettez-vous deux secondes, justement, si ça n'était pas la condition humaine d'avoir des ennuis, imaginez une vie humaine. Imaginez votre vie humaine, notre vie humaine, exempte de toute difficulté. C'est-à-dire rien qui cloche. Tout va bien. Les gamins ne braillent pas, ils tombent pas, ils se cassent rien, enfin tout. Enfin, personne ne meurt, pas de deuil, pas de, enfin bon, pas de maladie, tout bien. Nickel. Où serait Dieu là-dedans? C'est ça le problème. Où serait Dieu là-dedans? Déjà que on a progressivement évacué Dieu de tous les champs où l'homme a acquis la souveraineté. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui prient pour être guéris du rhume. Parce qu'on a dans l'armoire à pharmacie de quoi, alors qu'avant, on pouvait en mourir. C'est-à-dire, toutes ces maladies dont on pouvait mourir et pour lesquelles, au Moyen-Âge ou au XVe siècle, sous Louis XIV, si vous voulez, les gens qui avaient la foi demandaient à Dieu la guérison, bah aujourd'hui, vous prenez un cachet, c'est réglé. C'est pareil pour tout ce qui touche à l'agriculture. Aujourd'hui, la dernière fois que vous avez prié pour qu'il n'y ait pas de famine, c'était quand, quoi? Ben voilà. Ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que aujourd'hui, l'homme s'est donné les moyens de ne plus avoir besoin de Dieu, de ne plus avoir besoin de, on va dire, de recourir à une divinité dans beaucoup de domaines. Parce qu'aujourd'hui, on sait que de toute façon, on arrive à faire pousser des trucs, quel que soit le temps qu'il fait dehors, et qu'il y a des stocks, et qu'on sait gérer ça parfaitement, et que de toute façon, au supermarché, il y aura toujours quelque chose dans les rayons, et qu'on ne va pas crever de faim. Bon. Donc, plus besoin de Dieu. Et donc, si on imagine... Alors, j'allais dire, si je le disais ironiquement, je dirais, heureusement pour Dieu, il y a encore des domaines dans lequel l'homme n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Mais imaginez qu'après-demain, on trouve des vaccins contre tout ce qui reste, c'est-à-dire cancer, sida, machin, etc. Pourquoi est-ce qu'on prierait encore? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout va bien, si tout allait absolument bien, la foi, au sens où on l'entend, deviendrait très vite simplement une option intellectuelle. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, non. Rayer la mention inutile. Est-ce que Dieu existe? Oui, non. Même chose. Alors, il y a le message biblique se situe quelque part entre les deux dérives. La dérive qui consiste à instrumentaliser Dieu, c'est-à-dire à en faire une divinité, c'est-à-dire on a besoin qu'il pleuve, donc on va se construire une divinité, on va s'inventer une divinité qui va faire pleuvoir. Donc ça, c'est la dérive de l'idolâtrie, dirait la Bible, c'est-à-dire la dérive d'une idole, c'est-à-dire de quelque chose qu'on se construit, c'est-à-dire sur laquelle on va avoir une influence, puisqu'on ne peut pas avoir une influence directement sur la pluie, ou directement sur le climat, ou directement sur ce que vous voulez, la montagne qui crache du feu, enfin bon, depuis l'aube de l'humanité. Donc, puisqu'on ne peut pas avoir, on s'aperçoit qu'il suffit pas de dire au volcan « calme-toi » pour qu'il se calme, il suffit pas de dire au tsunami « bon, ça marche pas ». Donc, l'homme, très vite, s'invente une divinité en disant « bon, bah, on va essayer d'inventer quelque chose qui ait du pouvoir là-dessus, qui ait du pouvoir sur les éléments de la nature sur lesquels nous, on n'a pas directement du pouvoir ». Donc ça, c'est la dérive, j'allais dire, primitive. Et puis la dérive ultime, c'est la dérive dans laquelle notre civilisation s'avance à grands pas. C'est-à-dire, ben, on fait en sorte de tout maîtriser, y compris, alors pour illustrer ça avec des thèmes d'actualité, je n'ai pas besoin de prier pour que l'enfant qui va naître de mon épouse... soit entier, qu'il lui manque pas un bras ou une jambe, ou qu'il soit pas trisomique, machin, aujourd'hui, ça se règle autrement, et vous le savez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'échographie, ou enfin avec des examens, on sait, et puis vous avez des gens très bien intentionnés qui disent « Bon, alors qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez ou vous le gardez pas? Il y a un risque, il n'y a pas de risque. Bon. » Donc, cette civilisation de l'élimination du risque, c'est aussi une civilisation parallèlement de l'évacuation de la foi. Et donc, si tout va bien, si tout allait absolument bien, il n'y aurait pas... Enfin, la foi serait vide de contenu. Ça serait réduit, encore une fois, à une option idéologique. Et donc, ce que la Bible nous enseigne, c'est que l'épreuve que Dieu laisse, puisque vous connaissez le texte, c'est pas Dieu qui éprouve directement les humains, mais l'épreuve que Dieu permet que nous subissions, il en fait, lui, dans notre intérêt, un instrument pédagogique. Alors, ça c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans Jacques, chapitre 1er. Prenez de très bon cœur, mes frères, prenez de très bon cœur quand même, toutes les épreuves par lesquelles vous passez, sachant que, alors c'est traduit comme ça, le test, c'est un mot un peu moderne, mais ça veut globalement dire ça, sachant que le test auquel votre foi est soumise produit de la persévérance, et ça c'est le lien, je vous disais que les concepts sont liés, il y a un lien direct, selon la Bible, entre l'épreuve et la persévérance, on reverra ça tout à l'heure, sachant que le test auquel votre foi est soumise produit de la persévérance, mais que la persévérance soit parfaitement opérante, afin que vous soyez parfait et accompli, exempt de tout défaut. Ou au verset 12, encore une fois, heureux l'homme... Pardon ? Ah, donc Jacques, chapitre 1er, verset 12, « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, parce que une fois testé, il recevra la couronne de la vie. » Donc ça, c'est le lien entre l'épreuve et la royauté. Vous voyez que... les concepts croisés, si je m'y attarde, ça va aller trop loin. Mais pour signaler au passage que je vous disais, c'est pas trois mots qu'il a trouvés comme ça, n'importe où, n'importe comment, et qu'il a mis ensemble. Ce sont vraiment des concepts qui interfèrent les uns avec les autres. Donc, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qu'il aime. Alors, il y a une vérité biblique dans il y a une part de vérité biblique. Vous connaissez la phrase célèbre « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Bon, la Bible dit un peu la même chose, un peu la même chose. Elle dit c'est fait pour vous rendre plus, c'est fait pour nous rendre plus forts. Mais elle dit aussi l'inverse. Elle dit aussi « Mais ça ne va pas vous tuer. Vous avez la certitude, c'est la promesse de Dieu, pas d'épreuve plus lourde que ce que vous ne pouvez supporter. Parce qu'avec l'épreuve, Dieu donne le moyen de la surmonter et la force de la dépasser. » Donc nous, on n'est pas dans, nous les chrétiens, on n'est pas dans « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». On est dans « Je vais avoir des épreuves à subir ». Dans mon existence, au moins autant que mon voisin de palier qui, lui, n'est pas chrétien. Et donc, on peut, a priori, dire « c'est pas juste, alors à quoi ça sert d'être copain avec Dieu ?» Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Il nous a pas promis un fleuve plus tranquille que le fleuve du voisin. Mais il nous dit, donc, l'épreuve, elle va vous faire grandir, et c'est le seul moyen de croissance possible, parce que sinon, votre foi va être désincarnée, c'est-à-dire, ça va se réduire à une option idéologique. Mais par contre, cette épreuve-là, vous aurez les moyens de la surmonter dans la relation avec moi. Quand on dit que c'est pédagogique, et quand on dit que Jésus est le modèle, on a quand même, même si on a fini par s'y habituer, une phrase, moi la première fois que je l'ai lue, je me suis demandé si j'avais pas rêvé, on connaît ça par cœur, Hébreux, j'habitais dans l'heure, mais c'est pas une raison, Hébreux, chapitre 5, verset 8, on parle de Jésus, tout fils qu'il était, il a appris. Donc la notion de pédagogie est au cœur de ça. Il a appris l'obéissance par la souffrance. tout fils de Dieu qu'il était, dans son humanité, Dieu lui a enseigné l'obéissance par la souffrance. Donc, si lui, il a dû subir, à titre pédagogique, l'épreuve de la souffrance, pour que ça le fasse grandir, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en tant qu'humain, en tant que fils de Dieu, ça allait, mais en tant qu'il était aussi humain, et en tant qu'humain, il a dû grandir dans la confiance en Dieu, eh bien, ça, il l'a appris par la souffrance, et c'est d'ailleurs ce qui permet intellectuellement le texte de Hébreux chapitre 2, verset 14. Puisque les enfants ont en commun, parce que le sujet, ça reste qu'est-ce qu'on a en commun, hein ? Les enfants que nous sommes aussi, ont en commun la chair et le sang. Lui aussi, pareillement, partagea la même condition afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave, car ce n'est pas à des anges qu'il est venu en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham. Aussi, il devait en tout point se faire semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux, en même temps qu'accrédité auprès de Dieu pour effacer les péchés du peuple. Et puisqu'il a souffert lui-même l'épreuve, il est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés. C'est-à-dire que Jésus, je vais le dire comme ça, et c'est très provocant comme propos, Jésus n'aurait aucune qualité, au sens d'aucune qualification, pour prétendre être à mes côtés dans l'épreuve s'il ne savait pas ce que c'était. Moi, je ne veux pas... Alors, c'est très provoque, encore une fois, la façon de le formuler. Mais je ne veux pas, quand je suis dans la panade, et je suis poli, et parfois ça peut être terrible à vivre. Il y a des épreuves qu'on pense insurmontables tant qu'on ne les a pas traversées. Eh bien, moi, je ne veux pas qu'une divinité prétende être à mes côtés dans ces moments-là, si elle ne sait pas de quoi elle parle. Et nous avons un Dieu qui, quand nous traversons l'épreuve, vient se mettre à côté de nous et nous dit « Je suis avec toi » parce qu'il sait de quoi il parle. Je vais vous dire quelque chose de beaucoup plus personnel. L'épreuve que viennent de traverser... Serge et Gabriel, et que j'ai traversé aussi, j'ai, dans ce moment-là, eu Dieu à côté de moi qui m'a dit, moi aussi, je sais ce que c'est de voir mon enfant mourir. Et moi, je ne veux pas un autre Dieu que celui-là. Parce que après, s'il n'est pas comme ça, c'est de la littérature. Et donc, la pédagogie, alors je ne vais pas tout traiter, hein, la pédagogie de l'épreuve, ça consiste pour lui à nous faire perdre trois réflexes qui sont purement humains. Et ça, on en a la leçon dans l'exemple d'épreuve qu'il a connu lui, c'est-à-dire, c'est dans Luc au chapitre 4, les 13 premiers versets. Luc chapitre 4. Donc là, on a la pédagogie de l'épreuve subie par Jésus. Alors, je traiterai pas tout ce soir. Hein, on va couper ça en deux. On fera demain matin. On fera un autre jour. Peu importe. Je m'arrêterai quand ce sera le moment. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était dans le désert, conduit par l'Esprit pendant 40 jours, et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsque le temps fut écoulé, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Le diable conduisit plus haut, lui fit voir un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes parce que c'est à moi et que ça a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable conduisit alors à Jérusalem, il le plaça sur le toit du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas car il est écrit, il donnera pour toi un ordre à ses anges de te garder et encore ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. C'est un texte qu'on connaît par cœur et on parle toujours, on pense toujours que l'épreuve, parce qu'on va direct, on va droit au but, on pense toujours que l'épreuve subie par Jésus, c'est sa confrontation avec le diable. Et on pense que Jésus dans le désert, son épreuve, ça a été d'affronter le diable et ses défis. Sauf que l'épreuve, à la base, c'est pas ça. L'épreuve, c'est qu'il a faim. Il est dans un endroit où il n'a pas choisi d'aller, puisque le texte est précis. L'Esprit conduit Jésus dans le désert. Jésus est soumis à l'Esprit de son Père. Donc le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Très bien, je vais dans le désert. Bon, et après, il se passe quoi? Ben justement, il ne se passe rien. Il ne se passe rien pendant un jour, pendant deux jours, pendant une semaine. Ça commence à faire longuet. Et 40 jours comme ça. 40 jours comme ça, pendant lesquels Jésus n'a certainement pas manqué de dire à son père, « Bon, je fais quoi maintenant ?» Et silence radio. Sauf que ça commence à creuser. Et au bout de 40 jours, il est mort de faim, enfin, au sens figuré du terme, justement. Mais le sens figuré, ça va pas tarder à devenir le sens propre. Parce que rester sans manger pendant 40 jours, vous allez voir que on commence à être sérieusement mal en point. Et donc, là est l'épreuve. C'est-à-dire que l'épreuve qu'il a à subir, la difficulté, le mal de vivre, ben c'est la faim. Mais la faim au point d'en mourir. Parce qu'on n'est pas, encore une fois, à deux jours et demi. On est à 40 jours. Et donc là, le diable... Alors évidemment, très bien, personnalisation du mal, tout ce que vous voulez. Mais ce que fait le diable, ça n'est jamais que souffler à Jésus des choses qu'il sait par cœur, c'est-à-dire prendre Jésus essayer de prendre Jésus au piège de son humanité, en lui disant, ben, réagis comme un humain. Je ne fais que te dire ce que tout être humain va avoir présent à l'esprit dans des circonstances comme ça. C'est pour ça que c'est une grande leçon pour nous, parce que nous aussi, on traverse des épreuves. Alors, c'est quoi le premier réflexe? Ben, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alors, effectivement, le diable ne m'a jamais dit ça à moi, parce qu'il sait que je ne sais pas le faire. Mais pour Jésus, ben oui. Oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que Jésus a le pouvoir d'arrêter ça, c'est-à-dire d'arrêter cette espèce de cirque qui a consisté à l'emmener dans un endroit où il n'y a pas à manger, pas à boire. Et ça fait 40 jours que ça dure, et ça fait 40 jours que son père reste silencieux, et maintenant ça va bien, quoi. Et donc Jésus, s'il veut, effectivement, il fait apparaître du pain. Puisqu'il en a fait apparaître du pain un autre jour, donc pas un problème pour lui. Il a nourri des foules entières, avec des poissons, des pains, tout ce que vous voulez, donc s'il veut faire du pain, il fait du pain, il n'y a pas de souci. Bon. Eh bien, puisque t'en as les moyens, vas-y, fais-le. Oui, sauf que Dieu m'a amené là, et depuis qu'il m'a amené là, et je suis sûr que c'est lui qui a voulu que je sois là, mais depuis, il m'a rien dit. Donc j'attends les ordres. Et ça, c'est le réflexe humain par rapport à l'épreuve. Et c'est pour ça que c'est notre foi qui est en cause. Et c'est pour ça que c'est l'amélioration qualitative de notre foi que provoque l'épreuve. C'est qu'il faut se débarrasser d'un premier réflexe qui consiste à dire... Et alors moi, je suis le champion de ça. Enfin, je sais pas vous. Mais quand Dieu commence à être silencieux depuis trop longtemps, bon, ben on va reprendre les choses en main. Hein. C'est-à-dire, on va faire ce qu'on est capable de faire, humainement. Parce qu'après tout, humainement, ben, j'ai les moyens de sortir de l'épreuve, globalement. Si j'attends pas que Dieu me donne des conseils ou des directives qui tardent à venir, ou alors c'est moi qui suis sourd, mais il y a un moment où ça va bien. Puis là, j'ai assez attendu. 40 jours sans manger, on ne peut pas dire que j'ai pas de foi. Donc maintenant, stop. Et Jésus, il fait pas ça. Il est fortement tenté de le faire. Alors tenté, comme le récit nous le raconte, mais le diable n'aurait pas été là. Vous croyez que ça lui serait pas venu à l'idée tout seul ? Sortir de l'épreuve par ses propres ressources. C'est-à-dire, transférer tout simplement la cible de la foi. Puisque j'ai mis ma foi dans quelqu'un qui ne me répond pas, je vais mettre ma foi dans quelqu'un qui me répond. Moi, en l'occurrence. Et si j'ai foi en moi, au moins, je vais avoir une réponse. Donc je vais compter sur mes propres ressources. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma confiance en Dieu, elle va jusqu'à un certain point. Mais il ne faut pas qu'il pousse le bouchon, par contre. Parce que sinon, je reprends les rênes. C'est ça ta foi, Jésus ? Non. La réponse que Jésus fait au diable, ça veut dire, si Dieu a décidé que je dois mourir maintenant, je vais mourir. Mais je ne ferai pas du pain. S'il ne me dit pas de faire du pain, je ne ferai pas du pain. Même si j'en ai le pouvoir. Est-ce que j'ai cette foi-là, moi ? Certainement pas. Est-ce qu'il a décidé d'améliorer ma foi dans cette direction-là ? Certainement. Et donc, les épreuves, c'est est-ce que tu vas d'abord ne pas avoir ce premier réflexe qui consiste à dire « puisque ta parole vient pas, je reprends les rênes ». On est, je ne sais pas si ça fait écho, ce que je vous raconte fait écho en vous, mais on est confronté à ça. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai été. C'est-à-dire... je suis un bon chrétien, comme on dit dans les milieux évangéliques, je m'attends à Dieu. Oui, mais si j'attends, il faut que ça arrive, parce que si ça n'arrive pas, on va envisager les choses autrement. Non. Si j'attends, j'attends. Ça s'appelle la patience. Le deuxième réflexe qu'il va falloir perdre, c'est... Vous vous souvenez de la deuxième tentation ? Si tu m'adores, je te donne tous les royaumes de la terre. Le diable ne m'a jamais dit ça non plus. Mais par contre, le réflexe humain qui consiste à dire... Parce que vous avez vu le mécanisme d'échange. Dieu demande... Dieu envoie Jésus dans le désert par son esprit... Et c'est tout. Silence radio. Et il lui dit pas « je t'emmène dans le désert, mais je te promets, tu vas pas crever de faim ». Non, il promet rien. Il promet rien. L'autre, il promet. C'est-à-dire, mon humanité, elle me dit « tu seras plus en sécurité dans le donnant-donnant ». C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Moi, si tu choisis de m'adorer moi, je te promets des trucs. T'as un père qui t'a rien promis. Et la preuve, c'est que ça fait 40 jours qu'il est silencieux. Et donc, il s'en fout de toi. Tu peux crever. C'est ça le discours du diable. Mais c'est ça le discours de mon humanité. C'est, tu crois que Dieu se préoccupe de toi, mais en fait, il n'en a rien à foutre. Il va te laisser crever. Pourquoi ? Parce qu'il ne t'a rien promis. Et puis parce que ce n'est pas le Dieu du donnant-donnant. Il n'y a jamais écrit nulle part... « Si tu m'adores, je te donnerai. » Il y a écrit le contraire. C'est, vous savez, la citation de Job dans le Nouveau Testament. « Qui a donné à Dieu en premier pour prétendre être payé en retour ?» C'est-à-dire, on met notre confiance en Dieu et on n'a rien à attendre en échange. Il n'a rien à nous promettre. On met notre confiance en Dieu simplement parce qu'il est Dieu. Lui, il ne nous doit rien. Moi, alors moi le diable, mais moi aussi l'humain, je te promets, je te propose quelque chose de beaucoup plus confortable, c'est la relation du donnant-donnant. C'est-à-dire, tourne-toi vers des gens ou vers des choses, vers des structures qui te promettent quelque chose. Dieu t'a rien promis, tourne-toi vers ceux qui vont faire des promesses. Alors, est-ce qu'ils vont les tenir ? Ça, moi, à mon avis, de la part de quelqu'un que la Bible qualifie de menteur, ça m'étonnerait qu'il ait tenu ses promesses. Bon, mais de toute façon, il n'a pas eu l'occasion de le faire, puisque Jésus lui a dit « va te faire voir ». Très bien. Mais ça peut être rassurant, le donnant-donnant, même quand c'est sur le papier, même quand c'est verbal. Et là, en l'occurrence, plus que jamais, comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais c'est très humain. C'est très humain de se tourner vers quelqu'un qui dit « bah, moi, je suis au bout de ma patience, au bout de ma force, au bout de tout. Alors, au propre comme au figuré, enfin, pour nos épreuves, c'est plus du figuré que du propre, heureusement, c'est « je vais crever si personne ne me sort de là ». Eh bien, il y a des tas de gens autour, et encore une fois, c'est très humain, qui vont nous dire bah, « donnant, donnant ». Donnant, donnant, sauf que mon donnant à moi, c'est l'adoration. Donc, tu adoreras ou l'un ou l'autre, pas deux maîtres. Et justement, dans la seule chose qui nous est demandée, c'est « tu l'adores lui et lui seul ». Bon, ça veut dire que là, la foi, elle prend une direction ou une autre. Ou elle grandit, ou elle coule à pic. Et encore une fois, on dit c'est diabolique parce que c'est le diable qui formule, mais c'est très humain. Troisième réflexe, jette-toi. Jette-toi et tu vas voir, tout est prévu, il va arriver avec les anges, le machin, le truc. Et d'ailleurs, c'est écrit, là pour le coup c'est promis, si tu te jettes. Et ça aussi, c'est vachement humain. Alors, on ne se jette pas, mais quand on est au bout de notre patience dans l'épreuve, ben on fait quoi? On est tenté de faire quoi? D'avoir un comportement qui oblige Dieu à agir. Parce que c'est ça, en fait. La tentation que... La proposition que le diable fait à Jésus, c'est « jette-toi ». Ça fait 40 jours qu'il n'a pas moufté. Tu ne l'as ni vu, ni entendu, ni rien du tout. Silence radio, et vidéo même. Eh bien, jette-toi. Et là, du coup, il va être obligé d'agir. Là, du coup, il va se bouger. Parce qu'il a promis que, de toute façon, il ne fallait pas que ton pied heurte une pierre. Donc, si tu te jettes, tu l'obliges à faire quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport avec Dieu est exactement inversé. C'est-à-dire, Jésus n'est plus au service de Dieu, mais il met Dieu, enfin l'humain qui est Jésus en l'occurrence, n'est plus au service de Dieu, mais il met Dieu à son service, il l'instrumentalise. Et moi, je suis capable de faire ça tout le temps. Tout le temps. Alors que c'est Dieu qui met Jésus à l'épreuve pour faire grandir la foi de son Fils, le risque, c'est de renverser la vapeur et que ce soit Jésus qui mette Dieu à l'épreuve. En disant « Attention, je vais tomber. Attention, je me jette. » Il fait quoi? Il met son père à l'épreuve. Et c'est pour ça que la réponse de Jésus, c'est « Tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. » La réponse que fait Jésus au diable, c'est « Tu ne mets pas Dieu à l'épreuve. » Parce que Dieu, lui, il n'a pas besoin de grandir. C'est Dieu qui te met à l'épreuve pour te faire grandir. Tu n'intervertis pas les rôles. Ça, c'est humain dans le meilleur des cas et diabolique dans le pire. Mais est-ce qu'on ne le fait jamais obliger Dieu à agir en disant « Bon, ben, puisque c'est ça, là, je vais me mettre dans telle ou telle position. » On a tous des exemples en tête, on pourrait citer. Eh ben, du coup, il va bien falloir qu'il dise quelque chose. Il va bien falloir que si je fonce dans le mur avec ma bagnole, je vais finir par l'entendre dire « C'est à droite ou c'est à gauche ?» Ou alors il me laisse m'écraser. À ce moment-là, merci, au revoir, quoi. Là, Dieu redeviendrait une divinité au sens une idole. C'est-à-dire, on se fabrique un Dieu à qui on fait faire à peu près, non pas ce qu'on veut, mais ce qu'on a envie qu'il fasse. Et surtout, au moment où on a envie qu'il le fasse. Et... C'est pour ça que... Alors, encore une fois, j'ai dit que je ne m'attardais pas sur cet aspect des choses, mais C'est pour ça qu'une fois cette épreuve surmontée, l'épreuve étant liée à la royauté, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'après, immédiatement, Jésus, qui a fini de subir l'épreuve, reçoit les signes de la royauté, c'est-à-dire les anges qui viennent à son service. Ça veut dire qu'en ayant subi l'épreuve, il est immédiatement reconnu dans sa royauté par son père. Mais c'était pas le. Enfin, je voulais pas insister là-dessus. Mais surtout, si Jésus avait trébuché ou succombé à l'un, simplement un de ces trois réflexes humains, parce que nous, quand on est dans le même genre de situation, pas dans la même situation, pas dans le désert en train de crever, mais, dans le même genre de situation. On n'a pas forcément besoin de voir une apparition, un type avec une queue, un trident, des cornes. C'est pas comme ça que ça marche. C'est notre humanité qui est en conflit avec notre condition de disciple à ce moment-là. Et en fait, si Jésus avait cédé... Et encore une fois, le diable ne fait que verbaliser ce que l'humanité de Jésus lui insinue, lui inspire... Et si Jésus avait trébuché dans un de ces trois domaines, eh bien, la pédagogie de Dieu ne se serait pas développée. C'est-à-dire, il avait l'intention d'apprendre à son fils que la communion avec lui, même quand on ne l'entend pas, parce que la promesse de Dieu, c'est ça, c'est « je suis là, même quand je ne vous parle pas, même quand vous ne me voyez pas, et vous ne me voyez pas souvent. Personne n'a jamais vu Dieu », dira Paul. Mais vous ne me voyez pas souvent, c'est entendu. Enfin, vous m'entendez pas souvent, d'accord. Vous me voyez encore moins, très bien. Mais moi, je vous promets que je suis là. Je vous promets que je suis là. Vous en faites quoi? Moi, ma pédagogie, c'est de dire, eh ben, cette communion-là, c'est-à-dire ma présence à vos côtés, qu'elle soit perceptible ou pas, c'est là qu'est votre vie. C'est ça qui vous fait vivre. Et de manière ultime, il l'a enseigné à son fils en lui disant bah, « ma présence, même invisible, même inaudible, même imperceptible, ça te fait vivre, même si tu manges pas. Tu vas survivre parce que je suis là. Et le seul fait que je sois présent à tes côtés, ça te nourrit. » Jésus n'aurait jamais... Alors, je vais peut-être vous choquer, mais... Tant pis, je le maintiens. Jésus n'aurait jamais réalisé ça au sens plein du terme s'il n'avait pas surmonté ces épreuves-là. Alors bien sûr que c'est le Fils de Dieu, bien sûr qu'il les a surmontées, bien sûr qu'il était divin plus qu'humain. Mais n'empêche que c'est comme ça qu'il a su que, en présence de Dieu, on n'a besoin de rien d'autre. On n'a besoin de rien d'autre, et s'il nous met, il ne s'agit pas de... commencer des jeûnes de l'autre monde, s'ils ne nous le demandent pas, pas la peine de se rendre malade. Mais ça veut dire que s'il nous le demande, c'est-à-dire s'il nous met en condition, et s'il nous dit, bah voilà, t'as ma promesse, et maintenant je me tais. Donc tu m'entends plus, tu me vois plus. Qu'est-ce que tu fais de ma promesse dans la durée? Eh bien, Jésus a appris que cette promesse-là était vraie, et que Dieu lui donnait la force de résister à l'épreuve jusqu'au bout, c'est-à-dire pas jusqu'à la mort, en l'occurrence. L'épreuve de la mort, elle viendra après, parce que c'est un long cheminement. Mais cette épreuve-là, qui n'est pas l'épreuve de la mort, l'épreuve de la mort sera beaucoup plus difficile encore, hein, parce que là, il dira, si c'est possible, que cette coupe s'en aille. Mais quand même, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bon. Et donc, c'est le prolongement de tout ce que Jésus a appris. L'obéissance dans la souffrance, comme on l'a lu tout à l'heure. Mais c'est grâce à ça que, par exemple, Jésus peut s'exprimer plus tard, et là, il sait de quoi il parle. Et effectivement, notre parole vis-à-vis du monde, elle n'est forte, mais ça, on en est tous convaincus, elle n'est forte que si on sait de quoi on parle, enfin, que si on a expérimenté ce dont on parle. Parce que des raisonnements intellectuels, enfin, si ça n'est qu'une idéologie, ça ne tient pas plus la route qu'autre chose. Le christianisme en tant que système, ça peut se démonter assez facilement. la force des chrétiens et la force des chrétiens des premiers temps, ceux qu'on appelait ces gens-là qui ont bouleversé le monde, c'est une expression biblique, ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Pourquoi est-ce que c'est des gens qui ont bouleversé le monde? Pas parce que c'est des grands intellectuels, pas parce que c'est des beaux parleurs, mais parce que ce qu'ils disent aux autres, ils l'ont expérimenté. Et ce qui fait la force de la parole de Jésus, c'est ça aussi. Et quand Jésus, dans Jean au chapitre 4 et au verset 31, Jean chapitre 4, verset 31, ça existe ça? Ah ben oui, mais c'était pas la bonne page. Verset 31. Entre-temps, les disciples le pressaient, « Maître, mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Sur quoi les disciples se dirent entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il donné à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Eh bien, si Jésus peut parler comme ça, en disant, « Moi, j'ai pas besoin de manger quand je fais la volonté de mon Père », c'est parce qu'il l'a expérimenté. C'est parce que dans le désert, il en a fait l'expérience. Et il sait que quand on a dépassé les réflexes humains, eh ben, on peut vivre de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, encore une fois, Dieu ne nous demande pas à tous de faire sa volonté plutôt que de manger. Mais si on fait un jour une étude sur le jeûne, on verra que c'est quand même... les deux idées ne sont pas complètement étrangères l'un à l'autre. Il est possible de se priver de manger pour accomplir la volonté de Dieu, temporairement. Sinon, le jeûne n'aurait aucun sens. Mais il ne nous est pas demandé... Enfin, je veux dire, on peut faire la volonté de Dieu tout en mangeant à tous les repas. Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que faire la volonté de Dieu, ça nous libère de tous les réflexes humains qui consiste à soit se confier en nous-mêmes, soit se confier à autre chose ou à quelqu'un d'autre que lui dans un rapport de donnant-donnant, ou soit le mettre à l'épreuve, lui, pour l'instrumentaliser. Si le fait de lui obéir, ça nous libère de ça, alors notre foi est passée par le feu. Et elle est plus pure qu'avant, comme l'or. Peut-être m'arrêter là, parce que non, mais on peut continuer, mais non, on s'arrête un peu, hein. Et puis, de toute façon, on se revoit demain matin, non? Pardon? Oui, non, mais je veux pas saouler tout le monde non plus. Bon, ça vous a parlé un peu ou pas du tout? Oui. Bon, allez. Bah là, il est 7h10, donc on va continuer, on va.
À 7h, non?
Bon, allez, jusqu'à 7h. Ouais, d'accord. Bon. Donc, ça, c'était petit 1, l'épreuve. Petit 2, la royauté.
T'as 10 minutes.
Pardon ?
T'as 10 minutes.
J'ai 10 minutes pour faire...
Non, mais
pour petit B et petit C. La royauté et la persévérance. Non,
mais demain matin, tu ne feras pas la royauté et la persévérance?
Bah, je peux faire autre chose. Enfin, j'ai amené du matériel, donc je peux faire ce que vous voulez, mais je peux. Oui, on peut faire demain matin.
Non, mais c'est ça, dommage.
Que ce soit au pas de charge.
Ouais, c'est pas, je trouve. Hein.
Bon.
Ouais.
Ouais, non, puis on est là pour prendre l'air aussi, donc on s'arrête un peu alors. Hein, allez, on s'arrête et puis on continue.
Les références, quoi.
Les références de. Ah, bah, bien sûr, bah, je te ferai une photocopie. C'est... Parce que t'es pas là demain matin? Ah, d'accord. Bon, non, mais je te passerai le...
Super, merci.
Bon. Voilà, merci de votre attention. C'est,
J'ai enregistré. Ça, c'est enregistré. Hein. Et demain matin aussi, ça sera enregistré. Faut juste que je pense à... Et franchement...